Radio Prague, les informations.
Prague apporte une aide à la Grèce ravagée par les incendies. Selon le chef de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, la centrale nucléaire de Temelín ne représente aucun danger. Une délégation du Congrès américain est arrivée à Prague pour discuter des questions des droits de l'homme à Cuba. La République tchèque apportera son aide à la Grèce ravagée par les incendies. À la suite d'un appel d'aide d'Athènes à l'Union européenne, la Tchéquie est parmi les 12 pays qui ont promis d'apporter ou apportent déjà une aide. Le cabinet tchèque a approuvé une aide financière à hauteur de 5 millions de couronnes et l'envoi d'un hélicoptère spécial. Selon le chef de l'Agence internationale pour l'énergie atomique Mohamed El-Baradei, la centrale nucléaire tchèque de Temelín ne représente aucun danger. Ce prix Nobel de la paix l'a déclaré dans les pages du magazine autrichien Profil, en ajoutant que, puisqu'il réside en Autriche, il peut l'appuyer par sa propre expérience. La politique étrangère de la République tchèque doit être articulée d'une manière consistante, indépendamment des gouvernements qui changent, a déclaré le chef de la diplomatie Karel Schwarzenberg à la rencontre annuelle avec les diplomates tchèques ce lundi à Prague. Une particularité de la politique étrangère tchèque, d'après le ministre, un accent mis sur les droits de l'homme et sur les liens transatlantiques. Une délégation du Congrès américain est arrivée à Prague pour discuter des droits de l'homme à Cuba. Cette question a été au cœur des pourparlers avec le chef de la diplomatie Karel Schwarzenberg, l'ambassadeur tchèque à Cuba Vít Korselt et les représentants d'ONG tchèques, dont l'homme en détresse qui déploie à Cuba des activités en faveur d'une démocratisation du pays. La Tchéquie est l'un des critiques les plus virulents du régime cubain et le soutien des droits de l'homme est l'une des priorités de sa politique étrangère. Le mauvais état des finances publiques représente la principale entrave à l'accomplissement des critères pour l'adoption de l'euro. C'est ce qui découle de la stratégie de la République tchèque pour son entrée dans l'eurozone récemment mise à jour. Pour cette raison, le document concerné qui sera soumis mercredi au gouvernement n'indique pas la date d'adoption supposée de la monnaie européenne. Une centaine d'anciens prisonniers politiques ont assisté à une messe œcuménique qui a été célébrée dans la chapelle de l'ancienne prison dans la ville de Uherské Hradiště en Moravie du Sud. Une occasion de se rappeler les atrocités liées à la Deuxième Guerre mondiale et au régime communiste. Météo, un refroidissement est prévu pour la dernière semaine des vacances. Ciel couvert et des températures comprises entre 19 et 23 degrés ont marqué la météo ce lundi. Un ciel plus couvert encore et des températures autour de 22 degrés sont prévues pour ce mardi, le jour de fête de tous les Augustins selon le calendrier national. C'était donc le journal présenté par Alena Gabertova.
Faits et événements en République tchèque. Jarka Gisubelova.
Bonjour et merci d'être avec nous à l'écoute de la première édition des faits et événements de la semaine. Il y a de cela tout juste 15 ans, la décision sur la partition de l'État commun des Tchèques et des Slovaques était prise. Nous reviendrons ensuite sur la déclaration du chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Mohamed El-Baradei, selon laquelle la centrale nucléaire tchèque de Temelín ne représente aucun danger. Nous parlerons également de la situation des brasseries tchèques dont la production augmente, tout comme les prix. Voilà pour le sommaire de cette chronique. Très bonne écoute à toutes et à tous. Prague et Bratislava se sont souvenus dimanche des 15 années qui se sont écoulées depuis la prise de décision sur la partition de la Fédération tchécoslovaque. C'est le 26 août 1992, dans la villa Tugendhat à Brno, que Václav Klaus, alors chef du Parti civique démocrate, et Vladimir Mečiar, leader du mouvement pour une Slovaquie démocratique, ont pris cette décision, mettant ainsi fin à 2 années de discussion et de recherche d'un modèle de coexistence au sein d'un État en commun. Les points de vue des partis tchèques et slovaques se sont avérés irréconciliables. Il était impossible de trouver un compromis. Rappelons les propos tenus en août 1992 par Augustine Marianne Huska, vice-président du mouvement pour une Slovaquie démocratique.
Nous disons non à la fédération, eux, les Tchèques, disent non à la confédération.
Václav Klaus, qui menait alors les négociations pour la partie tchèque, s'est exprimé de la façon suivante.
Il sera possible d'instaurer des rapports beaucoup plus ouverts. La communication et la coopération entre Tchèques et Slovaques seront à l'avenir meilleures que par le passé.
Cinq mois plus tard, le 1er janvier 1993, l'État commun des Tchèques et des Slovaques, fondé le 28 octobre 1918, a cessé d'exister. Une ambiance de joie a alors régné sur les places à Bratislava et à Prague. Vive la Slovaquie, vive la Tchéquie, ont scandé les foules. Ceux qui ont regretté ont pourtant été nombreux. Aujourd'hui, plus de 70% des Slovaques sont fiers d'avoir un État à eux. L'entrée de leur pays dans l'OTAN et dans l'Européenne y a joué un rôle, tout comme la croissance économique rapide du pays, supérieure de plus de 3% à celle de la Tchéquie, pour citer les données du premier semestre 2007. Et les Tchèques, il y a 15 ans, un quart d'entre eux ont vu d'un œil favorable la partition. En croire un récent sondage de la CVVM, aujourd'hui ils sont près de 60%. En ce qui concerne le niveau de vie, les Tchèques vivent mieux. Leur salaire moyen est de 2/3 plus élevé que celui des Slovaques, 20 000 couronnes par rapport à 14 000 en Slovaquie. Ceci pourrait toutefois bientôt changer, compte tenu du boom de l'économie slovaque. Pour toutes ces raisons, le président tchèque Václav Klaus, artisan de la partition il y a 15 ans, ne doute pas de la justesse de la décision.
L'évolution a prouvé que la partition de l'État, que nombre d'entre nous ne souhaitaient pas, moi y compris, a été un pas dans la bonne direction, une décision qu'il fallait prendre et qui a été prise à un moment opportun.
La centrale nucléaire de Temelín, ou l'éternelle pomme de discorde entre la République tchèque et l'Autriche, dernier événement en date, la déclaration faite ce lundi par le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, un magazine autrichien. Des détails avec Anna Kubista.
Nouveau rebondissement donc dans cette affaire qui pourrit les relations entre les deux pays depuis plusieurs années et non des moindres. Mohamed El Baradei, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui siège à Vienne, a en effet accordé une interview parue ce lundi au magazine autrichien en ligne Profil. D'après le prix Nobel de la paix 2005, la centrale tchèque de Temelín, située à une soixantaine de kilomètres de la frontière avec l'Autriche, ne représente aucun danger et il précise explicitement « Je peux le dire la conscience tranquille puisque je vis moi-même en Autriche. » Rappelant que l'énergie atomique allait prendre à l'avenir une place de plus en plus grande en tant que ressource énergétique à un niveau global, il a précisé que l'Autriche ne devrait pas se concentrer sur l'existence de Temelín mais plutôt sur sa sécurité. Les réacteurs qui se trouvent tout autour de l'Autriche n'ont rien à voir avec Tchernobyl, a-t-il déclaré, se voulant rassurant tout en reconnaissant que le risque zéro n'existe pas. Des déclarations qui ont immédiatement provoqué une vive réaction des opposants autrichiens à la centrale de l'organisation Atom Stop, qui ont accusé El Baradei de se contredire. Mais ces propos ont en revanche satisfait la présidente de l'Office national pour la sécurité nucléaire en République tchèque, Dana Drábová.
Pour moi, la déclaration de M. Baradei est l'illustration de ses connaissances sur la centrale de Temelín. Et c'est pour moi la confirmation de ce que nous ne cessons de répéter en tant qu'organe de surveillance nationale.
Les opposants autrichiens à l'énergie nucléaire ainsi que certains hommes politiques autrichiens reprochent aux Tchèques de ne pas respecter les accords de Melk signés en 2000 qui obligent la République tchèque à signaler à son voisin toute anomalie survenue dans la centrale dans un délai de 72 heures. Côté tchèque, on refuse de prendre au sérieux les activistes autrichiens et on s'élève contre les blocus des frontières régulièrement organisés par les antinucléaires. Non sans susciter la polémique d'ailleurs, puisque les déclarations en mai dernier du ministre des Affaires étrangères Karl Schwarzenberg sur les « je cite Ingo » qui organisent les blocus n'ont évidemment pas été bien accueillies de l'autre côté de la frontière. Pas plus que ses propos il y a une semaine, le chef de la diplomatie tchèque avait estimé que les discussions entre l'Autriche et la République tchèque au sujet de la centrale de Temelín étaient, je cite, « apaisées » avant que le président Klaus, en visite en Autriche mercredi dernier, n'appelle à ne pas dramatiser les choses autour de la centrale. Pour les opposants autrichiens à la centrale, ces déclarations sont des provocations et ils ont immédiatement rétorqué en menaçant de renchérir en septembre en bloquant les frontières. Des protestations qui, d'après ces derniers, pourraient prendre une forme bien plus radicale.
Cette année, les brasseries tchèques prévoient un record de production, aussi bien de la bière classique blonde ou brune que de la bière sans alcool dont les consommateurs sont de plus en plus nombreux. De notre côté, l'Union des brasseurs tchèques laisse entendre que les prix de cette boisson nationale pourraient augmenter. Alain Slivinski.
La production de bière tchèque a augmenté au cours du premier semestre de cette année de près de 4% par rapport à la même période en 2006 pour atteindre un volume de près de 10 millions d'hectolitres. Les ventes ont également augmenté aussi bien en République tchèque qu'à l'étranger. Les exportations ont un peu moins augmenté que la consommation locale, mais les brasseurs indiquent qu'un volume important est aujourd'hui produit sous licence à l'étranger. Les plus gros producteurs tchèques restent traditionnels, les brasseries de Plzeň, de České Budějovice, Staropramen de Prague, Starobrno du chef-lieu de la Moravie, les brasseries de Přerov et de Krušovice. Elles font toutes partie de groupes internationaux, à part la Budvar de České Budějovice. Cette brasserie devrait être transformée en société par action pour être ensuite privatisée et éventuellement vendue à un groupe international. Le vice-premier ministre et ministre de l'aménagement territorial Jiří Čunek n'est pas d'accord avec la privatisation de cette brasserie, du moins pour le moment. D'après lui, Budvar est une brasserie des plus prospères qui rapporte des milliards de couronnes au trésor public et il serait dommage de couper une rentrée d'argent constante au profit d'un bénéfice immédiat. La brasserie Budvar est l'un des plus gros exportateurs de bière tchèque. Sa production est en hausse d'année en année, tout comme sa renommée et ses exportations. En plus de cela, la privatisation pourrait nuire à l'appellation contrôlée qui, depuis de longues décennies, fait l'objet d'un litige avec l'américain Budweiser. La production de bière tchèque augmente, mais le prix de la boisson nationale pourrait aussi augmenter, selon le président de l'Union des brasseurs, František Krakeš. La raison, la hausse des prix des matières premières, l'orge et le houblon. Le prix de l'orge augmente sur les marchés mondiaux car il existe une certaine pénurie. Le cas du houblon est assez différent, les houblonnières en effet vieillissent et il est indispensable de les rajeunir. Le prix d'une telle opération est plus élevé que la vente du houblon récolté sur la même superficie, explique Zdeněk Roza de l'Union des producteurs de houblon de Žatec. Et il ajoute...
Grâce au programme du ministère de l'Agriculture, la situation s'améliore peu à peu. Mais le rajeunissement des houblonnières n'est pas encore assez important. Les vieilles houblonnières représentent encore dans les 35% de toute la superficie plantée. Ces houblonnières devraient être rajeunies immédiatement.
Les brasseurs, pour leur part, ne comptent pas encore sur une augmentation du prix de la bière tchèque. Ils s'avouent, certes, sous la pression de leurs fournisseurs de matières premières, de l'augmentation des prix des carburants et donc des frais de transport. Mais pour l'instant, ils font face, car la concurrence est des plus rudes sur le marché de la bière aussi bien tchèque que mondiale.
Et voilà, c'était les faits événements, mais ne quittez pas l'écoute, le programme en français sur Radio Prague continue.
Sport en République tchèque. Guillaume Narguet.
Bonjour à toutes et à tous. Suite et fin aujourd'hui dans cette rubrique sportive de l'entretien avec Ivan Hašek, bien connu en France pour y avoir passé une partie de sa carrière de joueur et d'entraîneur au Racing Club de Strasbourg, puis la saison dernière dans l'un des clubs les plus populaires de Ligue 1, l'AS Saint-Étienne. Le club du Forêt n'ayant pas souhaité poursuivre sa collaboration avec le technicien tchèque, Ivan Hašek est donc revenu à Prague où nous l'avons récemment rencontré. Dans la troisième et dernière partie de cet entretien, nous avons d'abord évoqué avec lui les nombreux joueurs français à évoluer désormais dans le championnat tchèque. Cette saison, ils sont en effet pas moins de 7 à figurer dans différents clubs tchèques de première division. Nous avons donc demandé à Ivan Hašek ce que ces joueurs français pouvaient apporter aux équipes tchèques.
Mais je pense que les joueurs français, ils ont des qualités individuelles énormes. Plus forts techniquement, ils sont plus forts, même ils sont plus dynamiques, ils vont plus vite que les joueurs tchèques. Pour les championnats tchèques, c'est intéressant parce que c'est les joueurs avec un autre style, avec l'école de football français qui travaille beaucoup de techniques quand ils sont jeunes et tout. Et il y en a, en France, il y en a beaucoup de joueurs qui finissent le centre de formation et qui ne trouvent pas le club professionnel. Parce que chaque année, je ne sais pas combien de joueurs, de nombreux joueurs qui ont le centre de formation et qui ne vont pas signer en première division, en Ligue 1 ou en Ligue 2, un contrat professionnel. Et c'est les joueurs quand même qui ont de qualité, mais il y a la concurrence qui peut jouer ici en Ligue 1. Mais ça, je pense qu'il n'y a pas dans un club 4 ou 5 joueurs français, mais s'il y a un ou deux, ça peut les aider pour les joueurs, ça peut les aider de clubs, parce que c'est les joueurs qui ont quelque chose supplémentaire qu'ils n'ont pas les joueurs tchèques.
On peut dire qu'en fait que la République tchèque ou le championnat tchèque peut constituer pour ces joueurs qui n'arrivent pas à se faire une place dans un groupe professionnel en France, en quelque sorte une issue de secours.
Mais je pense aussi, c'est intéressant, mais il faut pas qu'ils pensent aux joueurs français qui viennent ici pour gagner l'argent. Mais ils ont une possibilité de jouer première division, ils ont une possibilité de jouer devant beaucoup de supporters, peut-être les Coupes d'Europe, et qu'il y a beaucoup de managers qui viennent voir le match. Pour quelques années, c'est intéressant pour les joueurs français. Pour eux, c'est mieux que jouer CFA ou peut-être le national en France.
On sait toujours que pour un club tchèque, faire venir un joueur de l'Ouest, enfin de l'Europe de l'Ouest, c'est compliqué au niveau financier. Je suppose aussi que ces joueurs qui viennent en République tchèque, c'est également intéressant pour les clubs tchèques. Mais est-ce réalisable à plus grande échelle?
Vous savez, pour la future, je pense oui, mais ça c'est toujours des questions un peu de l'argent, de comment ils ont les budgets, les clubs et tout. Mais la vie en Tchéquie, je pense que c'est intéressant. C'est peut-être pas le même qu'en France, mais il y a une ambiance ici, par exemple à Prague, que j'aime beaucoup, que vous connaissez aussi, que je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant. Même Alex Mendy, je pense qu'il est là déjà quelques années, et Ludovic aussi, qui sont contents avec la vie ici en Tchéquie. Mais je pense que c'est pour la future, c'est intéressant. Et si un joueur en France qui ne trouve pas les clubs professionnels, qui s'intéresse à jouer la Ligue 1 ici, qui vient pour une essai, tout, qui va trouver le club ici, je pense, parce qu'ils ont des qualités pour jouer ici.
Enfin, le dernier sujet que nous allons évoquer, c'est celui de l'équipe nationale tchèque, qui actuellement est certes deuxième de son groupe et en bonne voie pour se qualifier pour le prochain championnat d'Europe. Malgré tout, depuis la Coupe du Monde, on sent bien que les performances sont un peu à la baisse depuis le départ de Nedved et de Poborski. Quelle analyse faites-vous de la situation autour de l'équipe nationale tchèque actuellement?
Comme vous avez dit, on est dans un bon voie, on est deuxième dans les groupes et je pense qu'on va être qualifié pour le championnat d'Europe. C'est ça qui est plus important pour le football tchèque. On est toujours en contact avec la meilleure équipe du monde. Et je pense que maintenant, l'équipe nationale, c'est vrai qu'il est peut-être pas performant quand qu'il a 3-4 ans, qu'il était plus fort. Parce qu'il y a maintenant qu'ils ont quitté l'équipe nationale, Poborski, Nedved, Schmitzer. Et on n'a pas les joueurs qui peuvent les remplacer. On n'a pas les joueurs qui jouent dans un grand club en Europe qui peuvent remplacer les joueurs top qualité. Ça va durer encore peut-être 2-3 ans. Maintenant, on a quelques jeunes joueurs aussi au championnat du monde dans moins 20 ans. Pour la future du football tchèque, c'est très important. On verra, mais quand même, qu'on est dans le pays qui n'est pas très très grand, qu'on n'est pas très très nombreux, mais on est capable de produire toujours de bons joueurs de football. C'est vrai, maintenant on est positionné à 10e place ou du monde de football. C'est très très intéressant, même si on était de 3-4 ans, on était 2e, 3e. Mais je pense que c'est toujours pas mal. Mais pour la future, je pense qu'on peut rester toujours dans les 15 pays, de meilleurs pays du monde de football.
Vous n'êtes donc pas inquiet sur l'avenir du foot tchèque, des résultats de la sélection. Donc vous ne pensez pas qu'il y a une baisse qui attend, enfin une chute même, comme d'autres pays comme l'Autriche, la Belgique. Vous êtes donc optimiste pour l'avenir du foot tchèque?
Moi, je suis toujours optimiste dans ma vie. C'est ça qui est peut-être un peu... C'est là que je pense que ne faut pas être négatif pour ça. Mais quand je vois le toujours de beaucoup de jeunes joueurs comme on est capable de produire ici en Tchéquie, il faut être optimiste toujours. On a toujours les joueurs qui sont capables de faire des grands matchs. J'attends des qualifications pour le championnat d'Europe. C'est très important. Et quand on est deuxième, on a reçu de l'équipe comme Irlande ici, à Tchéquie, comme Slovaquie. Si on gagne les deux, je pense qu'on est qualifié. Et c'est déjà pas mal. Être présent au championnat d'Europe, c'est déjà pas mal. Et pour la future, il faut trouver sur le poste que ça nous manquait maintenant en ce moment, qu'on est un peu faible dans l'équipe nationale. Il faut trouver des joueurs. Il faut mettre les jeunes sur la place titulaire des joueurs qui sont la future. Et c'est peut-être maintenant l'équipe nationale de moins 20 ans qui sont là. Les joueurs de jeunes qui ont 19-20 ans, qui vont préparer la future et qui peuvent peut-être à bientôt jouer avec l'équipe nationale là, comme ils ont fait déjà l'équipe nationale espoir, qu'ils étaient qualifiés aussi pour le championnat d'Europe, qu'ils n'ont pas fait les grands résultats, mais qu'ils étaient là. Et que je pense que il faut trouver maintenant le joueur qui peut remplacer les grands joueurs qui ont fini déjà la carrière dans l'équipe nationale.
Voilà, c'était donc Ivan Hašek, celui qui était l'entraîneur de l'AS Saint-Étienne la saison dernière. C'est la fin de cette rubrique sportive. Merci de votre attention.
Merci à Guillaume et encore une rubrique hebdomadaire sur Radio Prague, cette fois musicale.
Na hodina, na čemale, v salonu barokních dam.
Un peu de musique quand même.
Alexis Rosenzweig.
Pastiška, jak filigrane.
Salut à tous, le magazine musical est consacré aujourd'hui au nouvel album de Raduza, album très attendu qui vient de sortir chez Indies Records ici en République Tchèque. Raduza, une auteure-compositeur-interprète hors norme dans le pays, l'album s'appelle The Salon of Baroque Dames, dans le salon des dames baroques, et on écoute tout de suite la chanson qui a donné son titre à ce nouvel opus.
O čem ta pastýřka sní, na sloupku, na hodinka. Na chvilku zasním se s ní, vrátím se ve vzpomínkách. Nad porcelánem z míšně vzdychám, uslyšíš mě za poslední vteřinou. Mám anebo spíš ne hlavou hodit pyšně, až se slzy pořinou. O čem ta pastýřka sní, na sloupku, na hodinkách.
Pas d'accordéon cette fois-ci dans ce nouvel album. Raduza a voulu changer et jouer d'autres instruments, piano, violon et autres ramenés de Turquie. Et à part un texte du poète tchèque Jan Neruda, Raduza a écrit les 13 autres sons de l'album avec aussi des passages en français.
Začíná o život boj. Jen když tě zabiju, sama to přežiju, dnes se mě, miláčku, boj. V smrtelném zápase chytneme se v pas, střetnem se zblízka a fest. Bez cizí pomoci, bez falše vší mocí, bez poz a zdvořilých gest. Cítit je pot náš a strach. Nech ty si zaryjem v těla, zavijem, ty jsi můj a já tvůj jsem vrah. Kradmo a úskokem s nejtěžším svým sokem musím se o život být. V smrtelném duelu připrav se na střelu, bude to, jak to má být.
L'amour, c'est la mort qui ouvre la porte. Je vois que tu sors avec le sourire. L'amour, c'est une voile pleine d'étoiles. Il faut que tu ailles chercher les yeux gris partout.
Et oui, en français et en langue romanie aussi, la dernière chanson de l'album de Raduza est intitulée Ma Pouch Mandar, et dans la langue des Roms, ça veut dire « ne me demande pas ». Et si vous voulez demander plus d'infos sur Raduza, voici l'adresse de son site internet www.raduza.cz, Raduza, R-A-D-U-Z-A, www.raduza.cz.
Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Et à très bientôt sur les ondes de Radio Prague. Même heure, même fréquence.
Listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 7 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 9 hours on 9880 kHz, at 10:30 hours on 11665 kHz, at 13 hours on 13580 kHz, and at 16, 17 and 20 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 10:30 hours on 9880 kHz. Listeners in Central and West Africa can tune in at 17 hours on 17485 kHz and at 21:30 hours on 9410 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 16 hours UTC on 17485 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 3:30 hours UTC on 9445 kHz. Now those of you tuning in North America can hear us at 21:30 hours UTC on 11600 kHz, at 22:30 hours on 7345 and 9415 kHz, also at 0 hours on 7345 and 9440 kHz, at 1 hour UTC on 6200 and 7345 kHz, and finally at 3 hours on 7345 and 9870 kHz. As in Southern Asia, can tune in at 9 hours on 21745 kHz and at 13 hours UTC on 17540 kHz. Listeners in South and East Asia and Australia can tune in at 20 hours on 11600 kHz.